VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 13 octobre 2016, en direct de Washington. Idrissa Sidoudia et Anne Albertson, tout d'abord les titres.
Au Nigeria, une dizaine de morts et une cinquantaine de blessés dans des affrontements entre un mouvement chiite et les forces de sécurité.
En République centrafricaine, entre 6 et 9 personnes ont été tuées et 17 blessées hier dans le centre du pays.
Au Yémen, les États-Unis ont bombardé 3 sites radars dans des zones contrôlées par les rebelles Houthis.
Le Portugais Antonio Guterres devrait être élu secrétaire général de l'ONU aujourd'hui à New York.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier la page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Nigeria, au moins 10 personnes ont été tuées hier et plus de 50 blessées dans des affrontements entre le mouvement islamique du Nigeria, un groupe chiite, et les forces de sécurité dans l'état de Katsina. Le point avec Lionel Gaïma.
C'était hier la Shura, la fête religieuse la plus importante de l'islam chiite. Les gouvernements de Katsina, Kebbi et Kano avaient interdit toute procession religieuse. Husseini Yero, un porte-parole du mouvement islamique du Nigeria, un groupe chiite, affirme que 10 membres de leur mouvement ont été tués dans la ville de Fontoua. À Kaduna, où ce mouvement est interdit depuis la semaine dernière, les affrontements ont fait 2 morts. À Kano, la mégapole du Nord, des douzaines de personnes ont été blessées lorsque la foule s'en est prise aux chiites pendant leur célébration. Le mouvement islamique du Nigeria ne reconnaît pas l'autorité d'Abuja et défend l'instauration d'un régime strict à l'iranienne. Son leader, Ibrahim Zakzaki, arrêté depuis décembre, toujours tenu au secret. Une centaine de ses partisans sont détenus à Kaduna dans l'attente de leur procès. En décembre dernier, Amnesty International avait accusé l'armée nigériane d'avoir massacré plus de 350 musulmans chiites et d'avoir enterré les cadavres dans une fosse commune.
Toujours au Nigeria, 8 personnes ont été tuées et une quinzaine blessées mercredi dans un attentat provoqué par l'explosion d'une voiture dans une gare routière de Maïdougouri, berceau de Boko Haram et grande ville du nord-est du Nigeria, qui vivait depuis plusieurs mois dans une stabilité précaire. Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est dit abattu à l'annonce d'un nouvel attentat. L'attentat qui n'a pas été revendiqué s'est produit à la sortie de la capitale de l'État du Borno, berceau du groupe État islamique Boko Haram, comme on l'a dit, a déclaré le porte-parole de la police locale, Victor Issoukou, dans un communiqué.
La Centrafrique a vécu hier de nouvelles violences meurtrières dans le centre du pays, alors qu'à Bangui, le tout nouveau cardinal nommé par le pape a tendu la main aux musulmans dans une marche pour la paix, John Lyndon.
Entre 6 et 9 personnes ont été tuées et 17 blessées hier à Kagabandoro, dans le centre du pays. 4 miliciens ex-Séléka avaient tenté de s'emparer du groupe électrogène d'une radio locale. L'un d'entre eux a été tué dans cet incident. Par la suite, les ex-Séléka ont lancé des représailles, mais se sont heurtés à la force onusienne qui vient d'être renforcée après de précédentes violences. Toujours hier, l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Zapalainga, le premier cardinal centrafricain de l'histoire, a marché pour la paix vers le PK5, quartier musulman. Il était accompagné des milliers de personnes, toutes confessions confondues. La semaine dernière, après l'assassinat d'un officier dans ce même quartier, 11 musulmans peuls ont été tués. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, doit se rendre à Bangui les 30 et 31 octobre pour annoncer officiellement la fin de l'opération Sankaris.
En Angola, 17 opposants au président José Eduardo dos Santos ont été amnistiés par la justice. Ils avaient été condamnés à la prison en mars et placés en liberté surveillée depuis fin juin. Le point avec Nanit Talani.
Les 17 jeunes ont bénéficié d'une loi adoptée en juillet qui accorde l'amnistie aux condamnés à des peines maximales de 12 années de prison pour des délits non violents. Ses opposants, dont le rappeur Luati Berao, avaient été condamnés à des peines de 2 à 8 ans de prison après avoir été reconnus coupables de tentatives de rébellion. Ils avaient toujours nié les accusations, disant appartenir à un mouvement pacifique. Ils ont été libérés fin juin, mais devaient se présenter une fois par mois à la police et n'avaient pas le droit de quitter le territoire angolais. L'un des opposants, Cédric de Carvalho, veut laver leur honneur devant la justice en saisissant la cour d'appel. Car, selon lui, il est insensé d'amnistier des citoyens innocents et que l'amnistie n'est qu'un moyen pour le président Dos Santos de laver son image de dictateur.
La police sud-africaine a affronté mercredi à Pretoria des étudiants qui manifestaient contre la hausse des frais universitaires, et ce au lendemain de la mise sur pied par le président Jacob Zuma d'une équipe ministérielle pour tenter de mettre fin à ce conflit qui dure depuis des semaines. Le mouvement étudiant de ces dernières semaines entend dénoncer la hausse du coût d'inscription à l'université, souvent hors de portée des étudiants noirs. Selon le gouvernement, la hausse des frais universitaires pourrait atteindre 8% l'an prochain.
Le représentant des Nations Unies en Afrique centrale, le Sénégalais Abdoulaye Batili, est candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, de même que le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat. Les chefs d'État africains devront trancher en janvier prochain. Jean-Roger Bion.
Le Sénégalais Abdoulaye Batili, représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale, basé à Libreville, va être remplacé par l'ancien premier ministre guinéen François Lonseni Fall. D'après le quotidien gabonais L'Union, Batili compte se consacrer totalement à sa candidature au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Pour sa part, le président tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine, avance la candidature de son ministre des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, en poste depuis près de 10 ans. Réunis en sommet en juin à Kigali, les chefs d'État africains avaient reporté à janvier 2017 l'élection du successeur à l'actuelle présidente, la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma. Aucun des trois candidats qui étaient en lice n'avait obtenu la majorité des 2/3. De nombreux États avaient jugé qu'il manquait d'envergure.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont bombardé 3 sites radars dans des zones contrôlées par les rebelles Houthis au Yémen suite à des attaques par missiles contre des bateaux de guerre américains dimanche et mercredi. Selon un porte-parole du Pentagone, cité par l'AFP hier, ces frappes limitées de légitime défense ont été conduites pour protéger les personnes, navires et libertés de navigation sur cette voie maritime importante.
Syrie, Washington et Moscou, malgré leurs échecs pour mettre fin à la guerre dans ce pays, se retrouvent ce week-end en Europe avec des puissances arabes et européennes pour tenter d'arracher un énième cessez-le-feu. Les diplomaties russes et américaines, qui ont suspendu il y a 10 jours leur dialogue bilatéral sur la Syrie, ont annoncé hier 2 réunions internationales, la première samedi à Lausanne et la seconde dimanche à Londres. Ces réunions, voulues par le secrétaire d'État américain John Kerry, se tiendront sur fond d'accusations occidentales de crimes de guerre en raison du déluge de feu russo-syrien sur Alep.
En Allemagne, le réfugié syrien soupçonné d'avoir planifié un attentat dans le pays au nom de l'organisation djihadiste État islamique s'est suicidé en prison 2 jours seulement après son arrestation, ce qui a déclenché une polémique sur ses conditions de détention. Selon l'avocat de Jaber al-Bakr, le risque suicidaire de ce dernier était connu des responsables de la prison, soulignant qu'il était en grève de la faim depuis son incarcération et avait tenté de s'électrocuter en manipulant des prises électriques.
Le Portugais António Guterres devrait être élu jeudi secrétaire général de l'ONU, avec pour mission de donner un nouvel élan à une institution affaiblie face aux multiples crises auxquelles le monde est confronté. L'ex-haut commissaire de l'ONU aux réfugiés, qui vient d'affronter à ce titre la plus grave crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale, devrait être officiellement nommé par les 193 pays membres de l'ONU pour un mandat de 5 ans, après avoir reçu jeudi dernier l'aval des 15 pays du Conseil de sécurité.
Présidentielle américaine 2016, plusieurs femmes ont accusé hier Donald Trump de harcèlement sexuel. La campagne du candidat républicain a formellement démenti, qualifiant de fiction totale l'article du New York Times à ce sujet et menaçant de poursuivre en justice notre confrère. Après la diffusion vendredi d'une vidéo de 2005 dans laquelle Donald Trump tenait des propos dégradants sur les femmes, le candidat républicain avait présenté des excuses.
Oui, mais M. Trump avait alors ajouté qu'il ne s'agissait que de discussions de vestiaire et qu'il ne s'était jamais comporté de la sorte. Ce sont apparemment de telles dénégations qui ont poussé Jessica Leeds et Rachel Crooks à confier au New York Times leur témoignage sur des attouchements sexuels dont elles n'avaient jamais fait part publiquement auparavant. De leur côté, le Palm Beach Post en Floride et une chaîne du réseau NBC dans la région de Seattle ont rapporté les propos de femmes accusant le candidat républicain.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, John Lyndon.
Le gouvernement camerounais a signé début octobre trois conventions avec la filiale espagnole de la Banque allemande. D'après le magazine Jeune Afrique, ces accords, qui portent sur un montant global de 30 milliards de francs CFA, doivent permettre de financer l'achèvement de la boucle électrique de la capitale Yaoundé. Le 13 septembre, la filiale espagnole de la Banque allemande avait déjà accordé 21 milliards de francs CFA au Cameroun pour aider à la première phase de l'aménagement du lac municipal de Yaoundé afin d'en faire un centre touristique. L'économie du Tchad perd près de 575 milliards de francs CFA chaque année des suites de la malnutrition infantile. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la Commission de l'Union africaine et rendue publique hier en N'Djamena. L'étude révèle que 56,4% des adultes tchadiens ont souffert d'un retard de croissance dans leur enfance, soit plus de 3,4 millions d'individus en âge de travailler, empêchés d'atteindre leur plein potentiel. Samsung Electronics, premier fabricant mondial de smartphones, a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre, les ramenant à 33,3%, soit un peu plus de 4,17 milliards d'euros. Cette baisse reflète le fiasco du Galaxy Note 7, dont le géant sud-coréen a par ailleurs annoncé la fin de la production. Le Galaxy Note 7 est retiré du marché à cause d'une défaillance de la batterie de l'appareil qui tend à exploser.
À présent, notre page sport avec Nicolas Pineau. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Bataille électorale pour prendre la tête de la Fédération de football à Ouagadougou.
Le colonel Sita Sangaré, qui brigue un deuxième mandat de 4 ans, sera opposé à deux autres candidats pour le poste de président de la FBF lors de l'élection qui aura lieu le 10 novembre prochain. Élu en 2012, Monsieur Sangaré fera face à l'homme d'affaires Amadou Traoré, président du Rai Club du Kadiogo, le RCK, auteur d'un doublé coupe championnat cette saison. Autre postulant, Bertrand Kabore, secrétaire général démissionnaire du comité exécutif sortant. L'ancien international burkinabé Kassou Mouedraogo Diziko, qui avait annoncé sa candidature, a finalement jeté l'éponge pour se rallier à Monsieur Traoré.
Le Barça a le sourire au niveau de son compte en banque.
Oui, le FC Barcelone a annoncé tabler sur un chiffre d'affaires provisionnel de 695 millions d'euros pour la saison 2016-2017, un montant inédit qui représenterait une hausse de 2% par rapport à l'exercice précédent. Cette hausse attendue des revenus barcelonais s'explique notamment par l'augmentation des droits télé avec l'entrée en vigueur cette saison d'un nouveau système de commercialisation portant sur la Liga.
Tennis, master de Shanghai.
Le numéro 5 mondial Rafael Nadal a été éliminé dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters de Shanghai par le Serbe Viktor Troïki, 31e joueur mondial. Le score 6-3. 7-6.
La NBA regarde vers la Chine.
La NBA a en effet choisi la Chine, son marché le plus important hors des États-Unis, pour lancer son réseau d'académies à l'étranger, avec la labellisation de 3 écoles qui auront pour ambition de détecter le nouveau Yao Ming. C'est ce qu'a annoncé hier la Ligue nord-américaine. On se rappelle, Idrissa, que la NBA, c'est 300 millions de fans en Chine. 3 centres d'entraînement déjà existants dans les villes de Jinan, Hangzhou et Urumqi seront labellisés Académie NBA. Ils offriront dès ce mois d'octobre aux jeunes talents un entraînement, des installations et une compétition de niveau NBA, selon le communiqué de la Ligue nord-américaine.
Ha ha ha!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS et la plateforme Rassemblement, se disent prêts à se constituer prisonniers pour exiger la libération de Bruno Tshibala, le secrétaire général adjoint du principal parti d'opposition congolais. L'ultimatum de 48 heures qu'ils avaient donné aux autorités après l'arrestation de ce cadre de l'opposition a expiré. Eddie Isango a joint à Kinshasa l'avocat de cette plateforme, Peter Kazadi.
Il a été auditionné. On ne nous a pas signifié sur place les inculpations portées contre sa personne. Mais on m'a fait dire à 3 heures qu'il a été amené à la prison centrale de Matara. Et nous venons d'apprendre seulement maintenant que les infractions des complots tendant à perpétrer les pillages et la dévastation ont été retenues contre lui. Et il s'agit là d'une infraction dont l'auteur encourt la peine de mort. Il lui reprochait le fait d'avoir participé à la manifestation du 19 et le 20. On estime qu'il serait à la base d'un complot, d'après les magistrats et même les pouvoirs en place, qui allèguent qu'il y avait un complot tendant à renverser les institutions de la République. Mais ici, on dit que c'était un complot pour perpétrer les pillages et la dévastation. Mais rien n'est encore prouvé de manière formelle à sa charge. Donc c'est une inculpation qui est retenue par les procureurs généraux.
Est-ce qu'il y a une date pour le procès?
Non, une date n'est pas encore annoncée, mais nous savons dans ces pays, on peut prendre quelqu'un comme ça et les garder plusieurs années sans les présenter devant les juges.
L'UDPS avait donné un ultimatum de 2 jours pour que M. Bruno Tshibala soit libéré, son secrétaire général. Est-ce qu'il y a déjà des actions envisagées parce que l'ultimatum s'achève?
Malheureusement, les 48 heures se sont écoulées. Maintenant, je crois qu'il est temps de passer à l'action. C'est ce que les responsables des UDPS sont en train de préparer, ensemble avec les rassemblements. Je crois, sans anticiper, que dans les 2 jours qui viennent, une action sera organisée. L'action consistera pour les leaders des rassemblements ainsi que les peuples congolais d'aller se constituer prisonniers chez les procureurs généraux qui y est décidé à arrêter tout le monde. Les pouvoirs multiplient les actions tendant à restreindre l'espace politique et ceux-ci sont considérés chez nous comme des signaux de la mauvaise foi de ces pouvoirs.
Le président Joseph Kabila a dit qu'il organiserait des élections dans un court délai.
Oui, mais nous considérons ça comme une distraction. M. Kabila n'a jamais voulu des élections. Il a passé 5 ans à la tête de notre pays. Au terme de son mandat, il est incapable de nous offrir ces élections-là. Nous ne voyons pas comment il peut les organiser aujourd'hui dans un bref délai.
C'était Peter Kazadi, l'avocat d'Étienne Tshisekedi.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
En Guinée, le dialogue politique est terminé. L'opposition et la mouvance présidentielle ont signé hier à Conakry le document final. Les deux partis ont décidé de reporter la date des élections communales initialement prévue au mois de décembre par la Commission électorale nationale indépendante. De la capitale guinéenne, notre correspondant Zakaria Camara.
Cet accord obtenu au bout de plusieurs jours de discussion, le Premier ministre témoin de la signature du document final ce mercredi s'est engagé et a engagé son gouvernement au respect des conclusions du dialogue. Mamadi Diula.
Dorénavant, je puis vous assurer, au nom de Monsieur le Président de la République et du gouvernement, que je veillerai personnellement, en vertu de mes prérogatives constitutionnelles, rappelées à l'entente de mon propos, au respect scrupuleux des engagements convenus. Je formule le vœu que tous les acteurs de la vie politique, mais aussi les acteurs économiques, les acteurs sociaux de notre pays, je formule donc le vœu qu'ils se convertissent définitivement ouverture du dialogue.
L'opposition guinéenne et la mouvance présidentielle ont accepté la mise en place de la Haute Cour de justice, la libération des personnes arrêtées à l'occasion des manifestations politiques. La Commission électorale nationale indépendante doit poursuivre ses activités d'actualisation de la cartographie. Les deux parties observent que l'actuel fichier peut être utilisé sans trop d'incidence sur les prochaines élections locales. L'opposition guinéenne considère ces accords comme acquis. Elle invite à leur application. Pour Foude Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG, principal parti d'opposition, il faut une action collective pour sortir de cette crise politique.
Nous voulons inviter ceux qui n'ont pas compris l'ensemble des Guinéens d'accompagner le président de la République et le chef de file de l'opposition qui se sont engagés pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Donc donnons-nous la main, essayons de mettre en application ces accords. Ceux qui n'ont pas compris, essayons de les sensibiliser pour qu'on puisse aussi sortir de ces situations d'élection pour nous occuper de l'essentiel.
L'opposition guinéenne et la mouvance présidentielle ont obtenu un consensus sur le dédommagement des victimes des pillages économiques. Mais ne sont concernées que des victimes lors des élections législatives de 2013. Concernant la CENI, les partis invitent l'Assemblée nationale à procéder à la révision de la loi 016 portant composition et fonctionnement de l'institution. Pas d'élection communale cette année, elles doivent se tenir au mois de février 2017. Un organe de suivi mixte doit se charger de l'application des accords signés ce mercredi. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Du nouveau dans le dossier Thomas Sankara au Burkina Faso. Hier, lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, les avocats de la famille Sankara ont révélé l'inculpation de 14 personnes. Ils ont aussi indiqué qu'une procédure d'extradition était en cours contre l'ancien président Blaise Compaoré, aujourd'hui réfugié en Côte d'Ivoire. Bagassi Koura a joint à Ouagadougou maître Stanislas Benewinde Sankara, avocat de la famille Sankara.
Ce qu'il y a de nouveau, c'est notamment les demandes d'extradition de l'ex-président Blaise Compaoré et l'extradition de Hyacinthe Kafando, qui était un de ses sicaires de la garde rapprochée. Mais il y a aussi que des auditions se sont poursuivies et nous avons pu faire le point des inculpations. Il y en a au total 14 à ce jour, dont 8 sont en détention ferme.
Alors, vous parlez de demande d'extradition concernant l'ancien président Blaise Compaoré qui se trouve en Côte d'Ivoire. Hein. Mais on avait dit que le mandat d'arrêt international contre lui a été annulé. Expliquez-nous un peu quelle est la différence entre ces deux procédures, le mandat d'arrêt et puis la demande d'extradition dont vous parlez.
Je dois démentir cette information parce qu'en réalité, Blaise Compaoré est poursuivi dans deux dossiers différents. Dans le dossier donc, qui concerne le président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons assassinés le 15 octobre 1987, la procédure qui a été diligentée, Blaise Compaoré fait l'objet d'un mandat d'arrêt international qui n'a pas du tout été annulé.
Concernant donc ce mandat-là, qu'est-ce qui vous dit que ça va marcher puisque l'ancien président est devenu ivoirien depuis son exil en 2014 en Côte d'Ivoire?
Oui, mais je pense que la Côte d'Ivoire ne cautionne pas du tout l'impunité. De toutes les façons, il y a un certain nombre de textes d'accord qui lient la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Et même que dans le cadre du traité d'accord d'amitié, nous avons un arsenal de documents et d'accords qui peuvent nous permettre d'insister auprès de la République de Côte d'Ivoire pour que Blaise Compaoré soit extradé ou éventuellement qu'il soit jugé sur le territoire ivoirien. Mais il n'échappera pas à la justice.
Alors, vous êtes aussi l'avocat du dossier Norbert Zongo. Ces derniers temps, on a très peu entendu parler de ce dossier.
Oui, vous avez parfaitement raison, puisque dans le dossier Norbert Zongo, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait déjà rendu un arrêt sur les réparations pécuniaires. L'arrêt a été intégralement exécuté par le Burkina Faso. il reste la procédure judiciaire qui fait l'objet donc d'une saisine d'un juge d'instruction qui est en train également d'instruire ce dossier. C'est vrai que nous y reviendrons à part entière sur ce dossier, puisque le 13 décembre prochain, nous allons commémorer l'assassinat donc, du journaliste Émérite Norbert Zongo.
C'était Maître Stanislas Benewende Sankara, avocat de la famille Sankara.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Présidentielle américaine 2016, les deux prétendants à la Maison-Blanche, le républicain Donald Trump et sa rivale démocrate Hillary Clinton, ont multiplié les meetings sur fond de controverses. D'un côté, les propos dégradants sur les femmes dans une vidéo de 2005, de l'autre, les révélations de WikiLeaks. Eric Manirakiza.
Donald Trump a sauté sur l'occasion pour incriminer davantage Hillary Clinton après la révélation par WikiLeaks des emails piratés du compte personnel de John Podesta, président de l'équipe de campagne de la démocrate. Trump a encore une fois répété lors d'un meeting en Floride qu'il instruira son ministre de la Justice à désigner un procureur spécial pour poursuivre sa rivale. Selon des documents publiés par WikiLeaks, l'équipe de campagne de Mme Clinton a utilisé son opposition au projet de pipeline de Barack Obama, le léoduc Keystone, en vue de détourner l'attention de la polémique sur les emails de l'ex-secrétaire d'État. Ce projet avait cristallisé le débat sur l'énergie et l'environnement aux États-Unis et était farouchement combattu par le rival de Mme Clinton aux primaires, Bernie Sanders.
Eric, malgré cette offensive de Trump contre Clinton, l'unité du Parti républicain est mise à rude épreuve.
C'est une véritable guerre civile et Donald Trump ne lâche pas face à Paul Ryan qui refuse de le défendre. Il a réussi à créer une rébellion dans les rangs des républicains au Congrès contre Ryan qui menace de lui retirer la confiance. Bien entendu, ceci arrange les démocrates mais ne veulent rien laisser au hasard. Ils ne cessent de rappeler à leurs électeurs que chaque voix compte.
Un des enjeux majeurs de cette présidentielle, c'est bien entendu l'économie. Une étude indépendante met en lumière la politique fiscale des deux candidats, Eric.
Selon le centre de réflexion, le Tax Policy Center, la baisse d'impôts généralisée prévue par le républicain Donald Trump profiterait aux plus riches. L'équipe de campagne du candidat a aussitôt dénoncé une étude mensongère. L'étude donne des galons à sa rivale. Clinton réduirait la dette de 1 600 milliards de dollars en 10 ans en augmentant les impôts des plus riches. Mais son plan fiscal risque de freiner l'épargne et l'investissement, précise l'étude.
Enfin, Eric, l'élection éventuelle du républicain fait apparemment peur à l'étranger.
Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, qui n'avait pas pour habitude d'interférer dans les campagnes politiques, a dit dans une conférence de presse à Genève que Trump serait un président dangereux sur la scène internationale. Al-Hussein a rappelé le plan de Trump, le retour de la torture comme technique d'interrogatoire. Ses propos sur les communautés vulnérables telles que les musulmans, les immigrés ou les minorités, Trump suggère qu'ils pourraient bien se voir privés de leurs droits fondamentaux.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.